Alors, je vous salue déjà depuis ce matin, mais enfin, je vous dis bonjour à tous quand même. Alors, nous sommes assemblés aujourd'hui, vous savez pourquoi? C'est le jour de la Pentecôte. C'est un jour que Dieu, rappelons-nous, que Dieu fit d'Israël un peuple saint. Donc, il y a une raison ici, un peuple saint à ce jour de la Pentecôte. Et cela, Dieu a traité avec eux une alliance. Une alliance, et ceci après qu'il lui donnait les commandements, et depuis ceci depuis le sommet du mont Sinaï. Alors Moïse explique cet événement à son peuple. Pardon, je tourne la feuille. Nous allons nous référer à cela dans Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 1. Deutéronome, chapitre 5, verset 1. Ce jour-là, donc, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, donc, imaginons la situation. Il convoque Israël devant lui. Alors, ils étaient plus nombreux que nous le sommes ici, bien entendu, mais il les convoque et que leur dit-il? Écoutez, leur dit-il, écoute Israël, les lois, c'est les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Alors, il y aurait toute une explication, hein, mais vous n'êtes pas des jeunes apprentis dans la parole de Dieu, donc vous comprenez très bien ce que cela veut dire. Au verset 2, l'Éternel Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Je suis toujours dans Deutéronome chapitre 5, le verset 3. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes assemblés. À l'époque, ce n'était peut-être pas nous, mais c'est ce qui s'est passé. Il le traite aujourd'hui quand même avec nous. Avec nous qui sommes ici aujourd'hui, vivants. Au verset 4, l'Éternel vous parla face à face. Sur la montagne, du milieu du feu. Et se tint alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Pourquoi? Car vous aviez peur du feu. C'est depuis lors qu'ils sont désignés par le terme l'assemblée de l'Éternel, appelée parfois l'assemblée au désert. Le peuple d'Israël vit, c'est le verbe voir, vit ce jour-là et un grand miracle au milieu du feu. Alors nous trouvons un miracle également dans la Nouvelle Alliance, le jour de la Pentecôte justement, où il est question de feu, où Dieu a envoyé son esprit à ce jour-là avec puissance sur les disciples qui, ce jour-là, étaient présents. Alors, je vais prendre Actes. On va se référer à Actes, chapitre 2, et nous prendrons à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Actes, chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On peut très bien voir la situation. L'Esprit Saint, donc ce jour-là, on peut le remarquer, l'Esprit Saint ce jour-là a été, on peut dire, matérialisé. Ça n'arrive pas souvent. Tout à coup, au verset 2, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et ce bruit remplit toute la nation où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. On peut facilement s'imaginer la situation. Au verset 4, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, ces événements-là, Ces événements étaient puissants. Ces événements indiquèrent la présence de l'Esprit-Saint. Et c'est lors de cette fête que pour la première fois, Dieu accorda son Esprit à ceux qui se convertissaient, fondant ainsi l'Église que Christ avait eu pour mission de bâtir. Rappelez-vous, Christ venait bâtir. Alors l'apôtre Paul trouvait important. L'apôtre Paul, nous nous souvenons, avait l'habitude de voyager beaucoup. Donc Paul se trouvait là pour observer cette fête. Et nous savons que Paul, comme je viens de le dire, voyageait beaucoup plus qu'il aurait voulu peut-être, mais c'était son travail. Et ceci entra en s'adressant, aux Corinthiens, il leur dit ceci, je vais me référer à 1 Corinthiens, le chapitre 16. C'est ce que Paul dit en s'adressant aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 16, nous prendrons les versets 7 et 8 pour l'instant. 1 Corinthiens, chapitre 16, et je prendrai au verset 7. 1 Corinthiens 16, verset 7. Je ne veux pas, moi je lis parfois, je ne peux pas, mais je ne veux pas ou je ne peux pas, enfin, pas cette fois, dit-il, vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur me le permet. Au verset 8. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Donc, il fait des projets. Ce n'est pas encore la Pentecôte. Il veut y aller, n'a pas pu. Mais pour la Pentecôte, il va essayer d'y s'y rendre. Alors, la Pentecôte est le commencement. On peut bien se souvenir ça, c'est assez élémentaire. La Pentecôte est le commencement de la moisson spirituelle. Prenons 1 Corinthiens. S'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous prendrons à partir du verset 20 à 23. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 20. Alors voilà. Mais maintenant, verset 20 dit-il, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il y a un événement qui vient de se passer, il leur explique. Car au verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, nous savons quel homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Au verset 22, et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Adam d'une part, Christ de l'autre. Verset 23, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Nous attendons l'avènement de Christ à ce moment-là. Depuis ce jour, l'Esprit de Dieu est promis à toutes celles et à tous ceux qui se repentent sincèrement, se font baptiser, en se laissant guider, à ce moment-là, enseigner par la loi de Dieu. Ces personnes-là sont appelées les prémices, les premiers fruits, si je puis dire, les prémices. Nous savons que c'est Pierre qui a donné le sermon ce jour-là. Ce n'était pas moi, à l'époque. C'était pas là. Nous savons que c'est Pierre qui a donné ce sermon en ce jour de la Pentecôte devant des personnes qui furent présentes et surprises de cet événement. Il y avait beaucoup de quoi les surprendre. C'était quelque chose qu'ils n'attendaient pas, ils ne se doutaient pas. Il leur expliqua ce qu'il fallait faire. C'est à chaque sermon qu'on explique parfois ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qui s'était passé du temps de Paul. Et ceci est valable justement pour toutes les générations, ce que nous disons maintenant, pour toutes les générations, jusqu'au retour du Christ. Alors, il leur mentionne ceci. Je vais prendre pour cela Actes chapitre 2. Et nous prendrons les versets 38 et 39. Actes, le chapitre 2, versets 38 et 39. Alors, c'est Pierre qui va leur expliquer sa pensée et ce dont ils attendent. Alors, acte 2, verset 38, Pierre leur dit, la première chose, repentez-vous. Ça frappe. Commencez par là, dit-il. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ensuite donc au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? À cause du pardon de vos péchés. Vous êtes baptisé à cause du péché, en se repentant bien sûr, et vous recevrez à ce moment-là le don du Saint-Esprit. Au verset 39, car la promesse qui est faite, la promesse qui est faite dans ce contexte, car cette promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et Jacques prend la parole aussi. Jacques donne les mêmes enseignements en nous rappelant toute la force, en nous rappelant surtout que toute cette force que nous pouvons recevoir par l'Esprit vient de Dieu. Il vient de Dieu. La force que Dieu nous donne, c'est pour le respecter, respecter ses commandements. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés dans ces temps-là, et c'est normal. Alors Jacques, chapitre 1, verset 16. Jacques, chapitre 1, verset 16 à 18. Il dit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. La parole de Dieu est toujours la même. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de changement. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Quelle est la valeur de ces paroles? Quelle est la valeur des paroles que nous venons d'entendre? Ces paroles, il est écrit aussi qu'elles n'ont pas de prix. Ces paroles n'ont pas de prix. On peut très bien deviner pourquoi. Parce que le salut est inestimable. Le salut est intesté. C'est incroyable. Elles n'ont pas de prix. Pourquoi? Parce qu'il a coûté ce salut, le salut en question, a coûté la vie du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Donc, il est loin, ce prix, et est très loin, au-dessus de tous les montants monétaires que l'on pourrait nous être proposés, pour ainsi dire. Donc, là, après, ensuite, il fait des comparaisons. Dans ses paroles, Jésus a comparé le salut à un trésor. Le salut à un trésor rare. Il l'appelle même une perle de grand prix. Alors, le salut est une perle de grand prix. Et je vais prendre pour ça Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Alors, au verset 44, il brode un petit peu, il explique un petit peu ce qu'est le royaume. Il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Alors, supposez que vous possédez un jardin, mais ce serait-ce qu'un jardin, il y a un trésor là. Alors, vous allez piocher, vous allez travailler jusqu'à temps de le trouver. C'est ce qui se passe. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » L'homme qui l'a trouvé le cache, ce trésor. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Ça veut dire beaucoup de choses, là. Au verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. La perle, il a la plus chère possible, la plus belle possible, quelque chose qui brille, vous savez, là. De belles perles. Au verset 46, Il a trouvé une perle de grand prix. Que fait-il? Il est allé vendre tout ce qu'il avait pour pouvoir acheter cette perle. Alors, pendant que nous sommes ici pour célébrer la fête de la Pentecôte, c'est le moment justement de faire le point quant à cette perle de grand prix. Faire le point, chacun d'entre nous, méditer sur cette perle de grand prix que Dieu nous offre et à l'enjeu qu'elle symbolise justement pour chacun d'entre nous. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été conduits à ce trésor inestimable. On ne l'a pas trouvé dans un champ, mais Dieu nous a conduits vers la vérité, vers ce trésor inestimable. C'est à nous d'étudier, de comprendre et de répondre à ce trésor. Il est dit, il va vendre, tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, ça ne veut pas dire abandonner tout physiquement, mais cela signifie abandonner, disons, certaines choses que nous faisions auparavant et pour nous porter de façon à être libres de faire la volonté de Dieu. Mettre Dieu en premier, en toute chose, dans nos décisions, dans tout ce que nous faisons, ceci est vraiment possible qu'avec l'Esprit de Dieu et la force que Dieu nous... Il faut, dans la prière, on peut demander tout cela à Dieu. Il nous le donnera. Il nous répondra. C'est là que se trouve vraiment la petite guerre, si vous voulez, la bataille, lorsqu'on en arrivera. Dans ce processus, il est appelé la conversion. La conversion au repentir. Nous savons qu'il faut comprendre les œuvres de la nature humaine, c'est-à-dire cette nature humaine qui est dans chacun d'entre nous. Je fais ça, mais c'est peut-être pas bien comme ça. Il faut que j'étudie, voir ce que ça donne. Enfin, nous faisons de bonnes choses, mais peut-être nous en faisions bien qu'il ne fallait pas faire. Alors, nous savons qu'il faut comprendre les œuvres de la nature humaine, c'est ce que je veux dire, et s'efforcer de les abandonner, ces œuvres de la nature humaine. Telle que la fierté qui conduit à l'orgueil parfois, ce n'est pas notre cas, je sais bien, l'égoïsme, la vanité, enfin disons, toutes les fausses perles. Cela veut dire rejeter les fausses valeurs, les valeurs qui risquent de nous éloigner de la recherche du trésor dont nous parlons. Dans l'épître de Paul, on va se rapporter à 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, et nous prendrons les versets 17 à 19. 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Alors Paul dit ici, il dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » Ça s'adresse à chacun de nous, même si nous n'avons pas des millions en banque, et ne pas se démettre leur espérance dans des richesses incertaines. À notre époque, les richesses incertaines, on parle souvent de dévaluation, de choses comme ça, alors ce n'est pas là qu'on est. Donc cette espérance à mettre en Dieu qui nous donne avec abondance, on peut dire, toute chose pour que nous puissions en jouir. Au verset 18, recommande-leur de faire du bien, d'être riche mais en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Dieu le Père offre à l'humanité ce trésor, à nous tous. Le salut dans son royaume. Et Pierre nous explique ça. Le salut dans son royaume, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Alors, dans ce passage, 1 Pierre chapitre 1, verset 18, Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, au verset 19, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. J'étais dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Alors, dans la quête de la vie éternelle, la vie du Fils de Dieu était le prix qui devait être payé pour les futurs fils et filles de Dieu. Nous pourrions penser à certains autres passages, nous pourrions penser à ce que nous dit Jacques, par exemple. Je viens faire des petites références, des rapports comme ça. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Alors, là, il nous dit, regardez. Autrement dit, faites attention. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Lequel d'entre nous est content quand il y a une épreuve? Ce n'est pas facile, ça. Avoir une épreuve, on aimerait mieux pas en avoir. Mais pourtant, l'épreuve nous fortifie. Avec l'aide de Dieu, on passe à travers. C'est parfois difficile, c'est vrai. Je reprends le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Chacun d'entre nous ont des épreuves. On priera les uns pour les autres. Mais essayons de traverser l'épreuve auquel vous pouvez être exposé. Au verset 3, toujours de Jacques, chapitre 1. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et ça parfois, c'est un long parcours. La patience, ça se résout pas du jour au lendemain. Donc, c'est avec la patience. Il ne faut pas dire, oh, j'ai manqué ça encore. Bon, ça vous pourrait manquer une fois, deux fois peut-être, mais Dieu vous aidera. Je reprends le verset 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait, et accompli sans faillir en rien. Donc, dans la vie, les épreuves sont parfois difficiles. Nous en sommes tous conscients, et c'est pourquoi nous prions les uns pour les autres. Les épreuves sur le plan spirituel nous aident à comprendre aussi nos priorités parfois. On serait tendance à choisir la plus facile. Et pourtant, Dieu nous demande d'essayer de passer à voir passer au travers cette épreuve qui est plus difficile dans nos vies et peut nous faire acquérir un caractère lorsqu'on arrive à traverser cette épreuve. Après, on est beaucoup plus heureux et on parfaire notre caractère spirituellement parlant. Je prends un exemple dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 25. Vous savez, on prend souvent l'exemple de Moïse. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il avait un bon parti, là. La fille de Pharaon, il était tranquille, il n'avait pas besoin de travailler, peut-être. Enfin, il aurait eu tout ce qu'il demandait avec la fille de Pharaon. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Donc, il a fait le bon choix, on peut le dire. Ensuite, il y a des décisions qui parfois sont difficiles à prendre, et c'est vrai. Au verset 25, toujours du même chapitre, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ce n'est pas une rémunération monétaire. La rémunération en question, c'est la vie. C'est la vie que Christ nous offre. Au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant ce qui est invisible. Voyant ce qui est invisible. Voir ce que Dieu offre et que nous ne voyons pas encore. Mais Dieu offre et nous demande d'essayer de traverser l'épreuve. Donc, il est possible qu'à une époque, il possédait peut-être certaines richesses dans le monde, mais plus tard, il acquit une richesse spirituelle. Alors, nous devons rester fermes sur la voie de la perle de grand prix, ne pas la vendre, ne pas non plus la compromettre, être sûr avec l'aide de Dieu. Assurons-nous que nous sommes sur la bonne voie, nous sommes sur la bonne voie tant que nous traversons même l'épreuve. Dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens le chapitre 2, versets 7 et 8. Éphésiens chapitre 2, versets 7 et 8. Et ceci donc, Éphésiens 2, 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela ne vient pas de nous, ni de moi, ni de vous. C'est le don de Dieu. Il faut voir cet aspect. Et cet aspect-là nous aide à passer la barrière difficile ici. Enfin, c'est comme ça, je la vois. Ça, c'est difficile parfois, mais il faut se mettre à genoux devant Dieu. Dieu nous aidera à passer le cap. Donc, ce don de Dieu nous rend riches dans la grâce déjà, riches dans son amour, riche dans la paix, riche dans la compréhension du but de la vie aussi. Il ne faut pas oublier ce but de la vie. Donc, la fortune dont on parle souvent dans ce monde, nous pourrions avoir c'est cette fortune dont on parle, c'est ce qui se trouve dans une banque, si vous voulez. Ce n'est pas interdit d'avoir de l'argent à la banque, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais les vraies richesses sont celles que nous avons dans notre cœur, les vraies richesses que Dieu nous fait connaître par sa parole et par son esprit. Alors vous et moi, en quelque sorte, nous sommes riches dans la connaissance de Dieu. Dieu nous a appelés à cette connaissance un jour. Nous étions peut-être étonnés de ce que nous trouvions dans la Bible. Faudrait que je dise à mon patron ceci, etc. Enfin, pour arriver à ça, c'est petit à petit qu'on y arrive. Alors, nous pouvons avoir une relation personnelle et quotidienne avec Dieu, une relation éternelle, à travers la prière, à travers l'étude, prière et étude qu'il ne faut jamais, jamais négliger. Alors, je vais prendre encore un exemple, on parle souvent d'exemple de David. David connaissait la valeur de cette perle de Dieu. C'est de la parole de Dieu en général. Dans les psaumes, en lisant les psaumes, il y en a beaucoup. Vous pouvez en choisir quelques-uns en fonction de ce que vous cherchez. Le psaume 119. Le psaume 119, je prendrai le verset 14 et 162. Psaume 119, verset 14. Et le verset 162. Alors, verset 14, il dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes. » Je pense que nous pouvons dire cela aussi. Nous avons la bénédiction que Dieu s'est fait connaître à nous et nous a fait connaître ses commandements, ses préceptes. « Je me réjouis en suivant tes préceptes. » C'est dans la prière. « Comme si je possédais tous les trésors. » Au verset 162, il dit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Verset 119, verset 162. Psaume 119, verset 16. Alors, nous trouvons souvent dans la Bible que ce trésor est aussi un moyen d'acquérir la sagesse en mettant tout en pratique. Ça évite de prendre des décisions. On peut se tromper dans nos décisions, mais Dieu interviendra toujours. Mais ça nous aide à prendre des décisions parfois. Nous trouvons souvent cela dans la Bible. Ce trésor est un moyen d'acquérir la sagesse. Proverbe chapitre 3, s'il vous plaît, versets 13 et 14. Proverbe chapitre 3, on commence au verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence, et la femme aussi, hein. Ça va ensemble. Car, au verset 14, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Dans ce monde, bien entendu, il faut bien avoir de l'argent, mais c'est la vie du monde, il faut bien s'en servir, et ne profite, je reprends mon verset 14, car le gain qu'elle procure est préférable à l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. C'est une belle phrase, je trouve ça. Alors, pendant que nous célébrons cette fête, c'est le moment de faire le point quant à cette perle de grand prix et à l'enjeu surtout, l'enjeu qu'elle symbolise pour chacun d'entre nous. Depuis notre baptême, il y a déjà pas mal de temps pour certains, depuis notre baptême, l'Esprit de Dieu est cette richesse spirituelle, richesse indispensable à la bonne marche de notre vie, indispensable à notre marche de notre vie avec les enfants et tout cela. C'est une marche que l'on fait ensemble parce qu'elle nous aide à mieux saisir la valeur et d'autre part parce que nous ne pouvons pas vivre sans l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre spirituellement, bien entendu, sans l'Esprit de Dieu. Dans ce monde que nous connaissons bien, les prophéties s'accomplissent vite. Les prophéties s'accomplissent, les guerres, se déclarent aussi rapidement. Vous vous souvenez, il y a peu de temps, notre nouveau président qui a été élu, réélu en France, parle d'instituer, je lis la phrase que j'ai relevée, il parle d'instituer une communauté politique européenne. Il veut créer des liens, renforcer l'unité, la puissance et les traités qui doivent être révisés. Ce n'est pas nous qui allons réviser les traités. Il va s'en charger. Alors, nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons commencé de jouer ce rôle le jour de notre baptême et un peu avant aussi, bien entendu. C'est pourquoi je pense souvent... Les plus âgés disparaîtront un jour, mais nos jeunes gens, nos jeunes femmes forgeront, c'est eux qui forgeront, je dirais, le futur de l'Église. C'est vrai, les jeunes prendront en main le futur de l'Église. Les parents peuvent en parler, ça, aux enfants. C'est pourquoi une bonne connaissance de la Bible et surveiller les événements pourront nous aider à faire face aux défis de cette vie. Nous devons tous être reconnaissants d'avoir ce guide spirituel, un guide digne de foi. Alors, sachons utiliser cette eau vive dont on parle, qui nous est gratuitement confiée, et ne négligeons pas cette perle inestimable que nous offre notre Créateur. Je terminerai par des passages de Jude. Jude, versets 20 et 21. Jude, versets 20 et 21. Alors ici, c'est toujours des enseignements. Jude, verset 20, il nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Deux autres passages que je vais prendre avant de terminer, les versets 24 et 25, toujours de Jude. Jude 24 et 25. Alors, au verset 24, Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et de faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Merci.